D'abord, encore soyez les bienvenus. Vient ce moment, effectivement, comme l'a dit Philippe, où nous allons pouvoir partager cette parole fraternelle dans la dynamique aussi de cette vie de groupe de maison. Et j'aimerais, pour l'introduire, m'arrêter sur ce constat un petit peu de cette société dans laquelle nous vivons, qui parfois tente à nous faire entrer dans des standards, ou à vouloir, alors je vais exagérer peut-être, mais qui tente à vouloir parfois nous uniformiser un petit peu, nous faire correspondre à un moule. Je ne parle pas de nos manières de paraître, hein, mais plus de nos manières de penser. Plus la société tente à créer un cadre fort qui cherche à niveler un peu les différences et les individualités, plus parfois l'envie de se distinguer se fera même forte. Quitte à oser même l'excentricité. Regardez le Japon, par exemple. L'un des pays où parfois le cadre est si fort que les exceptions se font très criantes. Mais sans aller jusque-là, vivre dans ce monde, sans pour autant lui être soumis, amène, je le crois, tout chrétien à se poser la question de ce qui le distingue profondément, de ce qui va irrémédiablement le démarquer, car il est invité, lui, à ne pas s'y conformer. Certains d'ailleurs, parmi cette grande famille de Dieu, vont réagir avec des signes extérieurs en optant pour une tenue à contre-courant. Oups, alors bon, c'était pas le texte, alors il a été mis un peu trop tôt. Voilà. Effectivement, pour certains, sont restés parfois dans une manière d'être, de paraître, qui remonte à quelques siècles, à l'aune du mouvement dans lequel ils sont issus. Mais la seule question qui vaille au bout du compte est celle qui regarde à ce qu'est la foi du chrétien. Qu'est-ce qui trahira aux yeux du monde la présence réelle de cette foi qui fait d'un chrétien un enfant de Dieu ? Lui promis au salut. Voilà un peu la question telle que je veux l'aborder, qui vous nous amener à aller lire ce texte de Jacques 2. Je la reprends, mais qu'est-ce qui trahira en nous, aux yeux du monde, cette présence réelle de cette foi qui sauve, de celle qui nous fait être enfants de Dieu. Voilà un peu la question que j'ai en arrière-plan et que je vous soumets maintenant. Et si effectivement il y a bien un texte biblique, non pas qui y répond, il y en a d'autres aussi, mais qui dérange, tout en pointant avec force vers la nature vraie de la foi, c'est bien celui que nous allons partager ou relire maintenant. Donc je vous invite effectivement, alors je repars en arrière parce que il y a une petite modification, voilà. Donc le texte de Jacques 2, dans ses versets 14 à 26, et je vais essayer moi en même temps de suivre là et puis de changer tout ça, j'ai trop l'habitude de lire ma Bible, je vais essayer de changer mes habitudes. Alors, voilà. Jacques 2, à partir du verset 14. Prenez le temps de peut-être prendre votre traduction et de la voir devant vous. Et maintenant, écoutons. Mes frères et sœurs, à quoi servirait-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il ne la démontre pas par ses actes ? Une telle foi peut-elle le sauver ? Supposez qu'un frère ou une sœur manque de vêtements et n'est pas tous les jours assez à manger. Et voilà que l'un de vous leur dit « Au revoir mes amis, portez-vous bien, restez au chaud et bon appétit », sans leur donner de quoi pourvoir aux besoins de leur corps. À quoi cela sert-il ? Il en est ainsi de la foi. Si elle reste seule, sans se traduire en acte, elle est morte. Mais quelqu'un dira « L'un a la foi, l'autre les actes. Eh bien, montre-moi ta foi sans les actes, et je te montrerai ma foi par mes actes. Tu crois qu'il y a un seul Dieu, c'est bien. Mais les démons aussi le croient, et ils tremblent. Insensé, veux-tu avoir la preuve que la foi sans les actes ne sert à rien ? Abraham, notre ancêtre, n'a-t-il pas été déclaré juste à cause de ses actes lorsqu'il a offert son fils Isaac sur l'autel ? Tu le vois, sa foi et ses actes agissaient ensemble, et grâce à ses actes, sa foi a atteint son plein épanouissement. Ainsi s'accomplit ce que les Écritures déclarent à son sujet. Abraham a eu confiance en Dieu, et Dieu, en portant sa foi à son crédit, l'a déclaré juste et il l'a appelé son ami. Vous le voyez donc, on est déclaré juste devant Dieu à cause de ses actes et pas uniquement à cause de sa foi. Rahab, la prostituée, n'a-t-elle pas aussi été déclarée juste par Dieu à cause de ses actes lorsqu'elle a donné asile aux envoyés israélites et les a aidés à s'échapper par un autre chemin? Car comme le corps sans esprit est mort, la foi sans les actes est morte. Alors, je crois qu'on va aller un peu plus loin. Tout n'a pas été ajouté. Il faut juste que je retrouve cela. Ah non, pardon, excuse-moi, j'avais bien fait Philippe, excuse-moi. Je ne sais pas pourquoi, j'avais l'impression qu'il me manquait un truc. Alors je reviens et je passe cette diapositive pour revenir à la question que j'avais tout à l'heure posée. À la lecture de ce passage, qui a quand même parfois suscité quelques problématiques, aujourd'hui comme hier, on se rend compte que Jacques, tout en pointant avec force vers la nature vraie de la foi, c'est bien de ce texte-là, de la lettre de Jacques, que j'aimerais que l'on s'arrête encore. Et à la lecture de ce passage, on se rend compte que Jacques se fait une idée très précise de ce qu'est la foi véritable, la foi chrétienne. Et pour cela, il bouscule les idées reçues. Par exemple, pour Jacques, la foi chrétienne n'est pas simplement se croire chrétien. Parce que cela est presque trop facile. Et d'ailleurs, c'est ce qu'il disait à la toute fin, dans ce verset 26, dans un autre, ça y est, je suis trop fatigué là, et parfois je ne prête pas attention à mes notes, mais au premier chapitre, verset 26, et je vais vous le donner justement, mais déjà dans le début de sa lettre plutôt, il disait ceci. « Si quelqu'un pense être religieux sans tenir sa langue en bride, mais en trompant son cœur, la religion de cet homme est vaine. » En gros, il nous dit ceci, vous vous croyez chrétien, très bien, mais l'êtes-vous vraiment? En tout cas, c'est la réflexion qu'il pose et la question qu'il nous soumet. Parce qu'effectivement, il est trop facile de se tromper soi-même. Parce qu'il est trop facile de se dire, oui, moi je suis chrétien. Sans parfois oser réfléchir davantage aux implications qu'une telle pensée devrait avoir sur ma vie. Et c'est là que Jacques se permet de nous bousculer, de nous secouer. Voyez les réactions des personnes quand il leur est posé, notamment quand elles sont croisées dans la rue, la question « Êtes-vous chrétien ?» Vous savez, la petite question pour un sondage. Je n'ai pas été retrouver des chiffres récents, mais de ce que j'entends régulièrement dans ce même genre de sondage, combien de personnes en France se disent chrétiennes? Il y en a un bon nombre. Et elles vont le dire parce qu'elles se disent ou catholiques. Alors là, peut-être, vous allez dire, oui, mais bon, on sait ce que c'est, un catholique. Il peut se dire catholique, ça ne fait pas de lui un chrétien. Petit jugement hâtif chez nous. Mais bon. Mais vous entendrez la même réponse chez quelqu'un qui se dira, oui, moi je suis chrétien parce que je suis protestant. Alors là, déjà, on se dit, oui, non, mais il y a protestant et protestant. Mais pourquoi pas aussi quelqu'un qui se dirait chrétien parce qu'il se dit évangélique? Et il résumerait sa réponse, je suis chrétien, donc parce que je suis évangélique. Est-ce que cela est valable? Ils vont se dire aussi chrétiens parce qu'ils vont de temps en temps à l'église, s'asseoir sur un banc, écouter un culte, écouter une prédication, venir chanter, pourquoi pas prier? Mais je reviens un petit peu derrière la question que nous pose Jacques. Toutes ces personnes qui se disent chrétiennes, en raison des arguments que je vous ai laissés, qui peuvent paraître caricaturaux, mais ils sont souvent cités. Le sont-elles vraiment? Le sommes-nous vraiment par rapport à ce que nous pensons être? Jacques, lui, nous fait entendre qu'il n'est pas suffisant de se croire simplement chrétien ou de se dire simplement « moi, je suis chrétien ». Ceci ne prouve rien de la réalité de ce qu'il se passe dans le cœur de cette même personne. Et il va même encore plus loin. Pour lui, même confesser quelque chose de juste n'est pas suffisant pour que ça soit considéré comme foi véritable. Au verset 19 de notre texte, on a entendu ce qui est apparu là, mais ainsi celui qui croit et déclare, comme d'ailleurs en ce temps-là, tout juif ou tout chrétien, qu'il n'y a qu'un seul Dieu, il a raison. Comme le dit Jacques. Mais cela n'est pas la vraie foi. Cette foi-là n'est pas suffisante pour être considérée comme véritable. Non, parce que même cette foi-là, elle est partagée par les démons. Et là, c'est vache, hein. Mais c'est ce qu'il dit, là. Et pour eux, comme pour nous, il ne garantit absolument pas le salut. Bon, sachant que pour les démons, c'est foutu, déjà. Pour nous, nous avons le bénéfice de l'œuvre du Christ. Mais dire « je crois en Jésus-Christ », pardon, cela ne suffit pas. Cela ne fait pas de vous encore un enfant de Dieu, malgré ce que l'on croit parfois. Et Jacques ne s'arrête même pas là, il se permet d'enfoncer encore un peu plus le bouchon. Celui ou celle qui considère que la Bible est parole de Dieu et qui l'écoute, comme tel, lui aussi a bien raison de le faire. Mais pour Jacques, cette foi-là, qui regarde aux Écritures, n'est pas non plus suffisante pour être considérée comme véritable. Car il dit ceci, car si quelqu'un écoute la parole et ne la pratique pas, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt comment il est. Ce que peut-être nous on pourrait appeler autrement, dans une expression un peu plus contemporaine, le chrétien du dimanche. Vous savez, il est là, il dit oui, il en ressort tout béni, et puis l'heure d'après ou le lendemain, tout est oublié. Tout ce qu'il a reçu est passé aux oubliettes et ça ne lui sert strictement à rien. Autrement dit, Jacques déclare qu'on peut très bien dire « je suis chrétien ». On peut même dire « je crois que Jésus est Seigneur ». Et même lire sa Bible, ça va vous choquer ce que je dis là, mais c'est ce que dit Jacques, et même lire sa Bible tous les matins sans être vraiment animé d'une vraie foi. Et l'Église, dans son histoire, a compté beaucoup de ces gens-là. Il suffit de voir de ce que l'Église a fait en son nom, au nom du Christ parfois. Et ce sont des gens qui pouvaient dire tout ceci ou faire cela. Et je ne crois pas qu'ils aient rendu un témoignage glorieux à Christ tout au long de leur existence parfois, malheureusement. Et je regarde à l'histoire, je ne regarde pas à nous aujourd'hui. Je vous laisse vous méditer. Nous tous d'ailleurs. Avouons-le. Ce que dit Jacques là, quand on en saisit le propos et la fulgurance même de son propos, est difficile à entendre. Combien parmi nous s'est dit un jour qu'en arriver à faire cela, alors de confesser sa foi, de pouvoir proclamer que Jésus-Christ est Seigneur, et même, surtout on regarde souvent des exercices pratiques, à des petits objectifs à atteindre, parfois grands même, lire sa Bible chaque jour, ferait de moi quelqu'un de bien, aimé de Dieu. Combien parmi nous s'est dit un jour qu'en arriver à cela, ce serait déjà pas mal dans ma vie chrétienne. J'en ai eu fait partie. Et peut-être on est même tenté d'y revenir de temps en temps parce que, voilà, on lâche un peu la bride et on se dit « Ah, il faut !» Alors, je ne dis pas que c'est une mauvaise chose, mais de fixer cela comme un objectif en disant « Ça, c'est bien. Ça, c'est de faire de moi un bon chrétien. Je sais que Dieu aime ce que je fais là. » Attention, il y a peut-être une erreur quelque part. Peut-être d'autres parmi nous qui peinent à cela se disent en eux-mêmes « J'aimerais bien en arriver là. » Et là, je saurais que je suis davantage dans les voies de Dieu. Or, c'est oui et non la réponse. Mais globalement, ce que nous dit Jacques, c'est qu'une telle foi, de croire que cela est la foi, n'a pas vraiment de substance. Or, pourquoi peut-il dire cela? Parce que ça semble osé. Eh bien, parce que pour Jacques, la foi est vide. La foi est vide tant qu'elle ne porte pas de fruits, tant qu'elle ne produit pas des œuvres. Pour Jacques, la foi véritable, c'est non seulement celle qui est juste en parole, en confession de la foi, donc il ne l'évacue pas, mais plus encore, c'est celle qui se caractérise par l'action. Celle qui se caractérise par des œuvres bonnes, empreintes d'amour et de justice. Pour Jacques, Une foi sans les œuvres n'est pas la foi. C'est une coquille vide. Alors attention, hein, et c'est là où il faut être prudent ou attentif. Jacques, ici, nous n'invite pas à entrer dans une logique d'œuvre méritoire, où je cherche à mériter, à gagner mon salut, à coopérer. Dieu fait beaucoup, il fait tout même presque. Mais moi, il attend de moi que je fasse des choses pour que ce salut subsiste. Ça n'est pas ça. Non, et l'apôtre Paul même va exactement dans le même sens que Jacques, parce qu'on a eu parfois tendance dans l'histoire, et peut-être encore aujourd'hui, à opposer Paul et Jacques. Et Paul, lui, en Éphésiens 2.10, nous fait entendre ceci, que si nous sommes sauvés par la foi en Christ, nous sommes sauvés pour pratiquer de bonnes œuvres. Alors, bon, ça je l'ai déjà dit, pardon, moi et mon habitude. Écoutez ce que dit Paul ici, là. Ce que nous sommes, nous le devons à Dieu, car par notre union avec Jésus-Christ, Dieu nous a créés. Et il est bien question de l'œuvre de Dieu, pour une vie riche d'œuvres bonnes qu'il a préparées à l'avance afin que nous les accomplissions. Dieu est à la barre, Dieu agit en nous pour que nous produisions ces œuvres bonnes, mais cette foi-là s'articule avec les œuvres. Elle ne peut être dissociée. Et Paul et Jacques se retrouvent, ont une même logique, même si Paul, peut-être, pour d'autres circonstances, va accentuer sur la grâce seule. Parce que c'est important pour les personnes à qui il s'adresse quand il va le dire. Mais pour Paul, Dieu nous sauve par le moyen de la foi seule, oui, mais la foi ne reste jamais seule. La foi œuvre nécessairement. Et c'est aussi ce que dit Jacques. À côté. Alors Jacques, effectivement, met un accent sur les œuvres. Mais quelles œuvres? De quelles œuvres Jacques parle? Quelles sont celles qu'il a en tête? Quand on pense aux œuvres bonnes, on pense inévitablement à des œuvres de charité, par exemple. À l'entraide. À l'amour du prochain, en acte. Et Jacques lui-même prend un tel exemple, d'ailleurs, au verset 15 et 16. Écoutez ce qu'il dit encore. C'était l'exemple qu'il a donné très vite. Il dit ceci, « Si un frère ou une sœur sont nus et manquent de la nourriture de chaque jour, et que l'un d'entre vous leur dise, allez en paix, chauffez-vous, rassasiez-vous, c'est peut-être pas tout à fait la même traduction, mais vous entendez la même chose, sans leur donner ce qui est nécessaire au cœur, à quoi cela sert-il? En lisant cela, on pourrait donc penser que Jacques encourage tout simplement à une spiritualité de l'action sociale. Voilà, être chrétien, c'est faire de l'œuvre sociale. C'est nécessaire, un passage obligé. Jacques voudrait alors voir les chrétiens actifs dans la cité, notamment auprès des plus pauvres, des plus démunis. Et c'est vrai. Jacques désirait déjà cela pour ses premiers destinataires. Mais ce que veut dire Jacques est en fait à la fois plus large et plus précis que cela. Parce que si on ne le voit que à travers cela, c'est limité ce que Jacques dit. Dans les versets que nous venons de lire, il met l'accent sur le fait de ne pas se contenter de faux-semblants. Et c'est ça qu'il faut saisir, plus encore. Oui, de ne pas se contenter de faux-semblants, d'une foi qui tente de tromper son monde par une œuvre qui cache quelque chose ou qui essaye de satisfaire un critère que je me suis donné. En gros, de ne pas se contenter d'une belle parole spirituelle, mais comme va en paix, à l'image de l'exemple, des versets précédents. Alors que la personne, elle, a besoin de manger. Ou ne pas se contenter d'un « je vais prier pour toi » pour rassurer l'autre. Alors qu'on sait très bien qu'on ne va pas le faire. Surtout, si vous en avez ne serait-ce que quelques secondes, une prière n'a pas besoin d'être fort longue pour être entendue de Dieu. Ce n'est pas son poids ou sa démesure qui va faire que Dieu va mieux la recevoir. Pourquoi pas prier avec cette personne alors qu'elle vous le demande et que vous lui dites cela? Priez avec elle. Les exemples choisis par Jacques par la suite, ceux d'Abraham et de Rahab, vont d'ailleurs dans ce sens. Alors je vous propose, parce que deux exemples c'est peut-être beaucoup, et qu'il y en a un peut-être parmi ces personnages que vous connaissez un peu mieux, je vais laisser Abraham de côté et m'intéresser uniquement au personnage de Rahab, la prostituée. Rahab, certes, n'est pas un exemple de grande vertu de par sa vie professionnelle. Mais comme le dit Jacques, elle a fait preuve d'une foi véritable en accueillant chez elle des espions du peuple d'Israël avant que ce dernier d'ailleurs ne vienne à prendre possession et de tout Canaan en commençant par la ville de Jéricho où se trouve Rahab. Rahab, alors que ce peuple d'Israël s'approche de Jéricho, je pense déjà elle avait compris que Dieu voulait que ce peuple prenne possession de ce pays, son pays, sa ville. Et forte de cette conviction, elle ne voulait surtout pas être, elle, un obstacle à cette volonté de Dieu. Aussi, contre toute attente et contre toute bonne raison, elle aide les espions qui sont entrés dans la ville et ont été repérés. Ce ne sont pas des très très bons espions apparemment. Et donc ils cherchent refuge et c'est chez elle qu'ils vont le trouver, parce qu'elle leur ouvre les portes au prix quelque part de sa vie. C'est elle qui risque gros là. Et la foi de Rahab se voulait conséquente. C'était une foi qui n'était pas qu'en pensée ou en parole. Elle aurait pu dire « oui, oui ». Mais de laisser sa porte ou leur indiquer un endroit où ils pourraient peut-être se cacher, en les laissant après à leur sort. Chez Rahab, ce que nous voyons et nous percevons, c'est une foi prête à agir selon ses convictions, et surtout de façon cohérente. Elle a foi en ce Dieu, elle voit que ce peuple est béni par ce Dieu, et quelque part elle veut, elle aussi, être accueillie par ce peuple. Et elle va, quelque part, avoir ce geste déraisonnable, pas que pour elle, hein. Elle a aussi certainement des proches. D'ailleurs, dans le deal qui se fait entre elle et les espions, il y a bien l'idée que les siens aussi seront avec elle et qu'elle mettra ce foulard ou ce tissu rouge pour signifier là où elle se trouve afin qu'elle soit sauvée avant la chute de Jéricho. Voilà donc à quoi Jacques fait allusion dans notre passage. Et voilà en quelque sorte, pour le dire autrement, son interpellation. Ce qu'il essaye de nous dire à travers tout ce passage. Si vous vous dites chrétien, il faut que ça se voie. Vous ne pouvez vous contenter de faux semblants, parce qu'en fait, très simplement, vous ne trompez personne. Ou plutôt, si en vous contentant de faux semblants, vous vous trompez vous-même. Et c'est très souvent là que ça commence, très honnêtement. On pense bien agir, on peut avoir des paroles parce qu'on veut redresser un frère ou une sœur, et on ne fait que le juger, le blesser, le décourager de servir Dieu. Cela arrive. Est-ce que là, j'agis vraiment en conséquence de cette foi que Dieu m'invite à vivre? Alors que je suis en train de peut-être, malheureusement, sans m'en rendre compte, parce que je pense être conséquent, d'agir contre l'œuvre de Dieu dans cette foi aussi qu'il donne à l'autre. Et cela est souvent un phénomène que nous voyons dans toute Église. Et nous pouvons peut-être le faire. Plutôt d'ailleurs dans sa lettre, comme tout à l'heure j'avais été prendre un verset au chapitre 1, là je vais encore le faire, Jacques faisait déjà entendre cet avertissement, qu'il est facile de se tromper soi-même, de s'abuser soi-même. Voyez, je vous mets la citation, mais quand il dit ceci, alors là la référence est mauvaise, c'est Jacques 1, 22, j'ai oublié de faire la petite correction, pardonnez-moi, mais il dit ceci, seulement, ne vous contentez pas de l'écouter à propos de la parole. Traduisez-la en acte, sans quoi vous vous tromperiez vous-même. Avant même d'en venir à ce passage très fort, il commençait déjà à esquisser, à pointer du doigt ce qu'il allait dire ici, avec force. Oui, dans une autre version encore, il dit « Pratiquez la parole et ne l'écoutez pas seulement, en vous abusant par de faux raisonnements. » Notre manière de revenir à dire cela. Alors, j'en viens après cette première grande question à la question qui nous fait rebondir et avancer. Alors, et nous ? Quels sont aussi nos faux raisonnements ? Il y en a peut-être encore quelques-uns, des tout petits. Quels sont nos faux semblants ? Ou pour le dire encore autrement, où nous nous trompons nous-mêmes ? Je vous donne quelques exemples très simples. Ne vous sentez pas profondément visés. Ils sont juste là pour nous aider à nous remettre en question et à oser tout à l'heure dans la prière remettre toutes choses devant les pieds du Seigneur. Je vais prendre un exemple qui fait un peu cliché, mais il peut être vrai. Un exemple de faux-semblant. Je viens au culte le dimanche, à peu près régulièrement, et même pas trop en retard. N'allez pas juger ceux qui sont en retard, hein, pour autant. Et de se dire, mais dans ce cas-là, parce que je fais cela, tout va bien. N'est-ce pas parfois une manière que l'on a de penser ? On se dit, parce que je fais cela, je me convainc d'être un bon chrétien. Ou encore, autre petit exemple, qui montre parfois nos faux semblants, qui masque la réalité de ce que Dieu attend de nous plus encore. J'ai donné ma vie au Seigneur il y a 15 ans, et je me suis fait même baptiser, donc tout va bien. Je suis un bon chrétien ou une bonne chrétienne, ou tout simplement je suis un chrétien ou je suis une chrétienne. Est-ce cela ? Dans ma vie personnelle, dans ma famille, quelqu'un pourrait souscrire à quelque chose comme ça. Et aujourd'hui, il semble si loin de Dieu que je crois qu'il n'a jamais eu une foi véritable. Ça me fait très mal, hein. C'est quelqu'un que j'aime beaucoup, quelqu'un de proche, mais bon. Ou alors, autre faux semblant, qui parfois nous masque cette vérité, nous oublie de voir ce que Dieu attend de nous, de goûter vraiment à cette foi. Alors, je vous le donne, mais ça peut être aussi un raisonnement qui dirait, bon, je ne donne pas beaucoup à l'Église, en argent, ou en temps, en énergie, mais ce qui compte, c'est ce qu'il y a dans mon cœur. Certains ont les œuvres, moi j'ai la foi. Ça rejoint un peu ce que dit Jacques hein, tout à l'heure, je le retraduis autrement dans notre quotidien. On s'excuse de certaines choses, on s'excuse sans se rendre compte de ne pas être conséquent. Et on met en avant la foi. Je peux moi dire que je t'aime ? Bah, montre-le-moi. Imaginez, je vous donne juste là, je l'ai peut-être déjà eu fait autrefois, parce que c'est un sujet si important, mais dans un couple, qu'il soit jeune ou plus âgé, hein, peu importe. Mais prenons l'exemple du mari. Allez, on va se défausser sur les maris, c'est plus facile. Qui n'arrête pas de dire à son épouse « je t'aime », mais ne le traduit jamais par quelque chose de concret. Croyez-vous que son épouse, dans cette expérience de vie, va à un moment donné se dire « oh oui, je vois bien que tu m'aimes ». Non ! Elle attend simplement des gestes, quelque chose de concret qui accompagne cette parole. Après, ça dépend des langages que nous employons, des langages attendus de l'autre. Mais imaginez une relation bâtie sur ce mode-là. Je t'aime. Et j'allume ma télé, je regarde mon match de foot et si tu peux m'apporter une bière, ce serait cool. Aucune situation dépeinte ici ne correspond à la réalité de chacun d'entre nous. Hein, vous inquiétez pas. Là aussi, je parodie, on prend les gros clichés connus. Mais ce genre de choses, en général, au sein du couple, même si peut-être on ose le dire, on sait très bien que l'amour s'est éteint ou que l'amour n'est pas là et que la chose est plus une appellation marketing ou une espèce de phrase qui est là pour apaiser toute chose ou empêcher d'aller plus loin dans l'échange. Mais ne sommes-nous pas parfois encore un peu de cela avec Dieu ? Et quelque part, très souvent, nous cherchons à nous tromper nous-mêmes en premier. Et c'est là le plus grave. On va essayer de masquer cette vérité pour nous ne pas la voir. Malheureusement, je suis assez convaincu de cela, beaucoup déjà le voient autour de nous. Peut-être déjà parmi des frères et des sœurs. Mais comme ils sont doux et gentils, ils ne vont pas venir vous le dire forcément. Mais ce qui est plus grave encore, c'est aux yeux du monde. Et en plus, si vous êtes du genre à scander « je suis chrétien » mais qu'à côté ça ne se voit pas, là, ce qui est terrible, c'est qu'on est loin de glorifier Dieu. Alors, je ne dis pas ça pour qu'on s'accuse hein, de mal faire. Mais il faut être prudent. Il faut savoir être conséquent. Si aujourd'hui, je ne te connais pas encore beaucoup, Seigneur, je ne vais pas encore le proclamer trop fort parce que mon exemple ou mon témoignage que les gens voient et peut-être pas à l'image de ce que je pourrais dire si je le disais encore plus fort. Et je risque quelque part d'accentuer leur préconçu sur ce que sont les chrétiens. Et on sait très bien à quel point parfois nous ne sommes pas compris et pas aimés à cause de nos faux-semblants, ou du faux-semblant de nos aïeux, de nos ancêtres, d'autres personnes, même si peut-être nous n'avons jamais trop agi ainsi. Mais voyez comme il est très facile aussi de s'appuyer sur des faux-semblants, nos faux-semblants, pour après nous pointer du doigt dans nos inconséquences. Et tout notre témoignage est là, et c'est un grand enjeu. Alors attention, je ne dis pas que les chrétiens ont tous été comme ça, surtout pas. Mais Jacques, effectivement, par ce passage, alors, je vous l'ai dit, il n'est pas facile. Hein. Je suis désolé, j'espère pas trop vous secouer, mais il le faut quand même. Parce que c'est pas moi qui l'a fait, c'est lui. Hein. Et là, je me défausse, c'est pas moi. Mais Jacques, oui, veut nous secouer encore. Alors que nous tentons de nous rassurer, de nous réconforter en nous disant « Je suis chrétien, et pourquoi pas j'ai été élevé dans une famille chrétienne. » Ce n'est pas toujours le cas, mais « J'ai été baptisé. » Vous savez, ces grands arguments. C'est un peu comme du fabriqué en Allemagne, c'est du costaud, ça garantit la chose. À partir de là, on est sûr, c'est du bon. Je sais pas. Mais c'est pas ça qui importe. Même si c'est une belle bénédiction. Hein. Mais Jacques, lui, vient vers nous et nous dit, alors là, je vais vous donner quelques petites choses. En gros, il nous dit, ta foi est vaine, si, et on va voir comment on se reconnaît encore, si tu as accepté d'être aimé de Jésus, mais que tu n'aimes pas en retour. Alors, il y a tout un cheminement à faire, effectivement. Mais c'est souvent déjà un grand début. Mais il nous dit encore, d'une autre manière, ta foi est vaine si tu as accepté d'être pardonné, mais que tu ne pardonnes pas, voire même que tu ne combats pas tes propres péchés. Et regardez, par exemple, après la prière du Notre Père, Jésus finit sa prière et il revient vers ses disciples et il récupère l'accent du pardon pour leur rappeler cela. Matthieu 6, verset 15-16, je crois. Allez lire. Et là, c'est à double tranchant. Si tu peux pardonner, alors Dieu te pardonne, oui, donc tu es sauvé. Mais si tu ne montres pas que tu ne sais pardonner, alors ne t'attends pas au pardon de Dieu. Tu n'es pas sauvé, parce que tu n'es pas conséquent, parce que tu n'as pas encore cette foi-là. Elle reste une espèce de garniture, une façade trompeuse, et tu te trompes toi-même. C'est pour ça que Jésus se permet de le dire là aussi. Encore autre aspect, mais qui montre les chemins sur lesquels Dieu veut agir en nous. Notre foi est vaine si tu acceptes d'être servi par Dieu et par l'Église, mais que toi-même tu refuses de l'y servir, de te faire son disciple tout simplement. Hein. Je ne dis pas qu'il faut agir absolument, servir peut être si varié. Mais parfois l'Église peut être perçue un peu comme un supermarché de la grâce, où je viens avec mon caddie vide et puis j'attends qu'on me donne des bénédictions. Je suis là pour ça. Après tout, le chrétien, parce qu'il est gentil et naïf, si je lui dis j'ai pas de sous, il va me donner des sous. Alors, attention, je ne dis pas qu'il ne faut pas agir aussi, nous. Ou alors, l'Église peut être aussi une espèce de garderie pour le dimanche matin. J'envoie mes enfants, et moi, même si c'est peut-être important aussi que les parents, parfois, aient le besoin aussi d'avoir un temps pour se poser, pour être avec Dieu, et d'espérer que l'Église puisse prendre en charge mes enfants pour qu'eux, ils aient aussi une vie culturelle et moi, je puisse avoir la mienne. Mais c'est différent. Mais parfois, la nuance est faible et on ne s'en rend pas compte. Je continue, j'ai encore deux exemples à vous donner, mais ta foi est vaine, dans ce que nous dit Jacques, et je prends un autre exemple, si tu as accepté la grâce de Dieu, mais que tu refuses de faire preuve de grâce et de compassion autour de toi. Je n'en dis pas plus, c'est très vaste. Et dernier exemple, ta foi est vaine si tu acceptes de tant recevoir de la part de Dieu, mais que tu refuses de donner de ta propre personne. J'ai appuyé, mais je crois que ça n'est pas venu. Voilà. On pourrait continuer, hein. Mais voilà quelques grands axes, quelques exemples qui nous montrent ce vers quoi Jacques pointe, qui pointe vers nos inconséquences, vers nos faux-semblants. Et très souvent, on aime bien récupérer, prendre, mais alors pour ce qui est d'agir en retour, d'être comme Christ l'a été pour nous, ça nous est plus difficile. Mais quelque part, ne vous accusez pas plus. Nous avons tous quelque part des difficultés dans ce sens-là. C'est notre nature pécheresse, là encore, qui continue parfois de parler. Mais j'en viens à conclure. Cette interpellation de Jacques ne peut que nous secouer. Alors, ce n'est pas volontaire, mais de ma part en tout cas, mais ce n'est que suivre quelque part l'intention de Jacques que de se sentir secoué ce matin. Et peut-être nous faire prendre conscience de tous ces faux raisonnements qui empoisonnent nos vies chrétiennes. Des vies qui n'avancent pas toujours. Eh oui. Des vies qui ne portent pas toujours de fruits pour la gloire de Dieu. Alors, surtout, ne commencez pas à regarder à la vie de votre voisin ou de votre voisine dans l'église. Là, je crois que déjà, vous faites fausse route. C'est vers nous qu'il faut regarder. Jacques, quand il s'adresse ici dès la première fois, et pour nous encore aujourd'hui, ne voulait pas que ses destinataires se contentent d'une foi stérile. C'est bien pour ça qu'il se permet de les secouer. Alors, je vous propose un petit challenge, si on peut le dire ainsi. Dans les jours qui viennent, osons chacun passer du temps devant le miroir de la parole de Dieu. Quitte à revenir sur ce texte-là, si vous préférez. Si vous aimez un peu vous faire mal, mais vous faire secouer, n'hésitez pas. Mais il y en a plein d'autres. Mais osons revenir devant le miroir de la parole de Dieu pour qu'elle vienne nous révéler ce que nous sommes vraiment. Et que nous puissions laisser cette image nous transformer. Que nous puissions nous placer au pied de la croix pour demander pardon, pour recevoir ce pardon, mais aussi être relevés pour marcher et œuvrer pour notre Seigneur dans notre vie. Tous les jours, d'une manière concrète, visible et autant que possible, sans faux semblant. Voilà à quoi Jacques nous appelle ce matin, voilà à quoi nous sommes appelés en fait chaque matin, même si ça n'est pas facile. Non pas à nous faire du mal avec ce texte, le but c'est pas de se dire « Allez, je prends Jacques, je l'ouvre devant moi, je prends mon fouet et vas-y quoi ». Non, ça n'a rien de tout cela. N'allons pas lire ce que dit Jacques ici ou ce qui parfois est à l'image de ce que dit Jacques, à le lire comme une accusation de l'ennemi, mais comme une invitation de la part de Dieu, lui qui est amour et qui désire nous voir grandir. C'est bien pour ça qu'il nous appelle ses enfants. Nous ne sommes pas ses oncles ni ses aïeux, nous resterons toujours ses enfants, parce que nous avons besoin de lui pour grandir. Et cela, il va l'amener à la perfection. Mais aujourd'hui, on est sur quelque chose qui devrait autant que possible grandir, avec parfois des petites bosses, des petits cailloux qui nous font trébucher. Mais Dieu nous soutient. Et vous savez quoi même? C'est là, dans une foi mise en œuvre, que se trouvera le bonheur véritable. On pourrait penser, bien sûr, que le bonheur, c'est de faire ce que l'on veut dans sa vie, ce qu'on entend partout, ou presque. De mener notre vie un peu comme bon ensemble, parce qu'après tout, je sais ce qui est bon pour moi. Mais Jacques, si je l'entends bien, j'espère ne pas me tromper, dit explicitement l'inverse. Il dit le bonheur, c'est de servir Dieu concrètement, pratiquement, dans la conséquence de notre foi. C'est pas de faire des œuvres, comme on l'a dit. On ne fait pas des œuvres juste pour des œuvres, pour espérer avoir quelque chose. Mais vivre dans le bonheur que Dieu veut nous donner, c'est de suivre sa parole, de se laisser être modelé dans notre vie. Et dans notre vie aussi professionnelle, dans notre vie sociale, dans notre vie d'église aussi. Il y a tout un challenge là encore. Voyez alors que l'on ne pourrait penser qu'une telle vie est dure, laborieuse et triste. Malheureusement, parfois, c'est un peu ce qu'on essaye de faire comprendre. Oui, être chrétien, c'est faire ci, pas faire ça, pas faire ça, pas faire ça, pas faire... Et puis vous allongez la liste, c'est très long, et puis là, les gens autour de vous, ils se disent « Ton truc, c'est tout le contraire. La vie avec Dieu nous libère de ces faux-semblants. Quelle merveille! Le monde n'est fait que de faux-semblants. Tout nous est fait pour vivre dans des faux-semblants. Et Dieu nous invite à vivre quelque chose qui soit vrai. Quelque chose qui nous libère et qui sera source de joie. » C'est pas facile d'accepter d'être libéré d'un esclavage parce que il nous maintient dans quelque chose qui nous rassure d'une certaine manière, sans qu'on s'en rende compte. Où Dieu nous dit « Je te donne la liberté ». Mais la liberté peut faire peur. Et même la liberté en Christ peut faire peur. C'est pour ça que parfois on reste caché derrière ces faux semblants. On a besoin d'un petit univers qui nous cadre, qui nous pose des limites. Mais Christ veut tellement plus pour nous. Et Jacques, effectivement, par rapport à cette vie, dit non, la vie chrétienne, elle n'est pas dure. Elle n'est pas laborieuse, elle n'a rien de triste, car c'est au contraire dans cette vie-là, dans cette vie conséquente, dénuée de faux-semblants, que se trouve la vraie joie. Et d'ailleurs, c'est ce qu'il disait encore, et je vais reprendre le passage qu'on avait lu tout à l'heure, voilà, c'est ça. Dans ces versets quasiment à la fin du passage, qui dit « Car si quelqu'un écoute la parole et ne la pratique pas », là il prend dans l'autre sens d'abord, « il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt comment il est. » Mais vient la partie positive. Mais celui qui a plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, voyez comment il la présente, et qui persévère, non pas en l'écoutant pour l'oublier, mais en la pratiquant activement, celui-là sera heureux dans son action même. Vivre dans la conséquence de la foi, dans la cohérence de cette vie de foi, est source de joie et de liberté. C'est ce que nous dit Jacques. Alors attention, ne faisons pas de la vie chrétienne une vie d'obligation régie par des règles, des lois et des actions à commettre jour après jour. Là, ce serait la pire des choses. Regardez à Christ. Lui a su nous montrer ce qu'est justement la vie chrétienne. C'est bien aussi en partie pour cela, même si c'était avant tout pour notre salut, qu'il s'est fait homme, pour témoigner de ce qu'est la vie avec Dieu. Lui l'a fait pleinement. Ça n'a pas toujours été facile, mais il a eu cette grande liberté. Voilà la bonne nouvelle de ce passage. Oui, Christ nous a sauvés, il nous a donné la vie pour que nous trouvions le bonheur véritable dans cette vie, pour que nous expérimentions sa vie. Pas une vie, sa vie. Sa vie en abondance, dans tout ce que nous faisons et disons. Sa grâce pour nous ne s'arrête pas aux portes du salut. Non, sa grâce continue de nous être donnée à chaque instant de nos vies en lui. Que Dieu soit loué pour ce qu'il est, pour ce qu'il a pour projet pour nous et de ce qu'il continue d'accomplir en nous. Ce que je vous propose, comme j'aime à vous le proposer, c'est que peut-être pendant maintenant les quelques minutes qui viennent, que chacun, dans sa liberté, puisse prier, soit en silence, soit à voix haute, mais que nous puissions dire notre reconnaissance dans ce qu'il est pour nous aujourd'hui, de ce qu'il fait déjà, de ce qu'il a fait et de ce qu'il va continuer de faire, car rappelez-vous, il va le porter à son absolu, à cette perfection. Même si pour cela il nous faut attendre son retour, mais aujourd'hui nous sommes déjà en chemin grâce à lui. Voilà, simplement inclinons-nous, prions ensemble, prenons ce temps et je conclurai moi par ma prière.
Seigneur notre Dieu, nous voulons te dire encore une fois merci, parce que chaque fois que tu nous apprends ta parole, tu veux que réellement nous puissions te ressembler. Tu veux réellement que nous soyons des enfants de Dieu qui marchent selon ta parole. Et nous savons qu'une chose, Seigneur Jésus-Christ, c'est ça ton esprit en nous, nous ne serons pas capables de pratiquer cette Seigneur Jésus-Christ, laisse que ton Esprit Saint, que l'Esprit qui était descendu les jours de la Pentecôte, l'Esprit qui nous accompagne chaque jour dans notre marche chrétienne, que cet Esprit, Seigneur Jésus-Christ, continue encore et encore à nous enseigner comment marcher avec toi. Seigneur, seuls nous sommes incapables, Seuls nous sommes sans force, seuls nous ne pouvons rien. Seigneur Jésus-Christ, nous avons besoin de ton esprit. Que ton esprit se manifeste au milieu de nous. Enfin, Seigneur Jésus-Christ, une fois que le monde nous verra, une fois, Seigneur Jésus-Christ, que nous marcherons dans ce monde, que le monde puisse réellement dire que nous sommes des enfants de Dieu, que nous sommes des rachetés du Christ. Seigneur, viens à notre aide, viens à notre secours, parce que nous avons besoin de toi, au nom de Jésus-Christ. Amen.
Seigneur, nous voulons te dire encore merci pour la puissance de ta parole, pour le fait qu'elle s'adresse en nous et connaît toute vérité en nous, parce que c'est toi qui l'as inspirée. Merci Seigneur pour ces paroles de ton serviteur Jacques qui ont la vertu de nous secouer, et parfois profondément. Seigneur, merci de ne pas laisser nous endormir sur ce que pourrait être ce que nous vivons et disons de notre foi. Seigneur, puisses-tu la réveiller, puisses-tu la rendre plus conforme à ce que tu es, à ce que tu veux de nous, pour que ce soit une foi vivante, agissante, une foi qui te fasse honneur et qui te glorifie, parce qu'elle sera animée d'amour, elle sera animée d'actes empreints de justice. Seigneur, oui, fais de nous tes fidèles serviteurs, non pas juste des proclameurs ou des commerciaux de ta foi, mais des personnes justes et vraies, capables de reconnaître ses fragilités, mais absolument convaincus de vouloir s'en remettre à toi pour avancer jour après jour dans cette vie que tu nous as donnée avec tant de grâce et de générosité. Seigneur, pardonne-nous encore peut-être ces inconséquences, ces faux-semblants encore qui masquent des parties de notre être et nous empêchent peut-être d'accepter qu'il nous faille encore nous laisser transformer par toi. Seigneur, merci parce que ces œuvres bonnes, ces actes et ces gestes que tu attends aussi de notre part, c'est toi qui en es le moteur. C'est en toi que nous trouvons les ressources et la force de les voir exister, de les voir être ce témoignage d'une foi vraie que toi tu nous as donné. Et Seigneur, si ce matin peut-être nous étions encore dans une foi qui n'est pas semblable à celle que tu désires nous offrir, puisses-tu encore agir au plus profond de notre cœur, puisses-tu par ton esprit nous transformer au point d'habiter en nous, et de nous inviter à ta suite pour commencer à marcher dans ce chemin de vie. Oui, Seigneur, merci parce que tu es ce Dieu-là, tu es ce Dieu de grâce qui a un amour pour tous. Et si peut-être nous sommes loin d'être à l'image de ta perfection, Seigneur, prends patience avec nous. Puisses-tu œuvrer en profondeur et dévoiler encore les parts de ténèbres qui refusent ta lumière, afin que, Seigneur, nous puissions, oui, être encore aujourd'hui comme demain, un peu plus des témoins dignes de ta grâce et de ton amour dans ce monde. Seigneur, c'est là ma prière, elle est pour chacun d'entre nous, et puisses-tu nous aider encore à agir, puisses-tu montrer aussi nos inconséquences et nos faux-semblants, afin que nous puissions chacun, jour après jour, les déposer au pied de ta croix, et de s'attendre à toi pour que tu nous aides par rapport à cela. Amen.
Voilà, merci pour ce partage et que vraiment cette exhortation.
Un message qui nous a beaucoup, en tout cas, secoué, comme le pasteur l'a dit, et aussi de ce qui vient d'être distribué. Je pense que je suis vraiment très, très touché de voir que vous êtes une église qui témoigne et qui vraiment va vers les autres. Et avec ce sujet de prière, en tout cas, c'est vraiment quelque chose qui est très important. Et vraiment, je me réjouis de cela parce que ce que je vais présenter maintenant va aussi en rapport avec cela parce que nous sommes aussi un ministère qui est porté vers l'évangélisation. Vous êtes peut-être prisonnier de votre vie ou de vos péchés. Moi, je suis un homme libre. Ces paroles ne sont pas de moi, bien entendu, quoique j'aurais pu les prononcer également. Ce sont les paroles prononcées par un détenu d'une prison de Tournai en Belgique. Elles nous sont rapportées par des Gédéons belges qui visitaient cette prison. Ce jour-là, l'aumônier de la prison avait organisé une rencontre avec des détenus. Et à cette occasion, l'ambiance était vraiment pesante. Et la tension était vraiment palpable dans la prison. Puis tout à coup, à leur grande surprise, le plus baraqué et le plus taiseux des détenus a pris la parole et a prononcé ces quelques mots. Je suis plus libre maintenant derrière ces murs que lorsque je marchais à l'extérieur. J'étais prisonnier de mes péchés, mais dans cette prison, la lecture du Nouveau Testament m'a libéré. C'était un Nouveau Testament comme celui-ci que les Gédéons avaient placé dans cette prison lors d'une précédente visite. Dans la Bible, Dieu dit dans Jean 8, 36, « Si donc le Fils vous libère, vous serez réellement libre. » C'est effectivement ce qui s'est passé dans la vie de ce détenu. Merci Seigneur pour sa fidélité à sa parole. Et aussi, qu'est-ce qu'on peut dire? C'est vraiment merveilleux de voir qu'un détenu témoigne également à ses semblables. Je pense que la plupart des fidèles de cette église connaissent le Gédéon. Je pense qu'on est déjà venu ici quelques fois. Et la dernière fois, c'était en mai 2018. Et c'est mon frère Bernard Miclot, ici présent, qui était donc venu à ma place ici pour faire cette présentation. Nous faisons ces visites régulièrement parce que, en tant que ministère chrétien, nous avons, en tout cas, nous sentons l'obligation de venir vous faire un compte-rendu missionnaire régulièrement pour témoigner de ce que Dieu fait au travers de notre ministère également, pour que vous soyez encouragés à aussi soutenir ce ministère dans la prière. Il faut savoir que chaque Gédéon est en effet, ou épouse du Gédéon, membre actif d'une église protestante ou évangélique. Et qu'en tant que Gédéon, nous nous sommes associés donc, pour pouvoir témoigner de la bonne nouvelle de Jésus-Christ et donner la possibilité à un grand nombre de personnes de pouvoir lire la Bible. Notre désir le plus ardent est que tous soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité selon ce qui est écrit dans 1 Timothée 2,4. L'année dernière, le Seigneur a permis que nous donnions de main en main près de 220 000 écritures ici en France et près de 81 millions à travers le monde au moyen du témoignage individuel. Donc chaque Gédéon dans sa vie au quotidien est amené à témoigner du Seigneur. et aussi au moyen de la distribution d'écritures. On les place donc dans les centres médicaux, dans les prisons, les casernes, les chambres d'hôtel, mais également aussi on fait la distribution donc devant les lycées et les universités. Nous voulons rendre grâce à Dieu de ce qu'il agit véritablement au travers de ce que nous faisons. Et nous pouvons témoigner que le Seigneur est à l'œuvre, conformément à ce qui est écrit dans Ésaïe 55, verset 11. « Ma parole ne retourne pas à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. » Vous connaissez probablement Maggie Blanchard, cette chanteuse canadienne d'origine haïtienne. Nous avons récemment retrouvé sur YouTube une vidéo dans laquelle elle fait un témoignage sur comment elle est venue à Christ. Maggie eut soif de liberté dès l'âge de 14 ans et s'est dirigée vers le monde de la musique pour combler ses attentes. Déjà à 16 ans, elle avait enregistré son premier 45 tours à Montréal. Mais sa carrière d'artiste l'a amenée à la drogue, à s'adonner à une sexualité débridée, aux mensonges et même aux pensées de suicide. En 1989, elle se retrouva un soir dans une chambre de motel. Et une chanson qu'elle connaissait bien lui est venue à l'esprit et elle s'est mise à la chanter. Elle dit ceci. En courant après le bonheur, après le soleil, après le vent d'ailleurs, tu vas casser ton cœur en courant. Je t'en supplie, arrête-toi. Juste le temps de regarder vers moi. Juste un instant. Le temps d'être heureux et de pouvoir repartir, si tu veux. Ce soir-là, dans la chambre, elle eut l'impression de voir une forme qu'elle appelait à l'époque énergie, dont elle avait peur et si elle venait à elle, la poussait habituellement à s'enfuir. Mais ce soir-là, la chanson qu'elle chantait en français comme en anglais lui disait de rester là. Elle s'est agenouillée au pied du lit, près de la table de chevet, demandant à Dieu, « Est-ce que c'est toi ?» Et voilà que Maggie entend alors une voix qui lui dit, « Ouvre le tiroir. » Ouvre le tiroir. En pleurs, elle trouve dans celui-ci une Bible, comme celle-ci, en trois langues, que nous avons l'habitude de placer dans les chambres d'hôtel. Elle avait dans le passé plutôt été habituée à lire la tour de garde des témoins de Jéhovah. Et la Bible était pour elle un livre complètement à part. Mais ce soir-là, elle a commencé à le lire et est tombée sur la prière du pécheur, qui disait ceci, « Seigneur Jésus, je reconnais que je suis un pécheur, viens dans mon cœur. » Ce soir-là, quelque chose s'est passé effectivement. Maggie se retrouve endormie, à genoux sur son lit, mais avec une paix en elle, et l'impression de se sentir propre, clean, comme le dit elle-même dans son témoignage. Dieu avait vraiment fixé un rendez-vous avec elle ce soir-là. Et dans son témoignage, elle dit ceci, et je la cite. Ma vie a commencé là. Dieu a répondu à la prière de la petite fille. Je ne savais pas que j'étais lié. Mais il m'a délié du mensonge, de la religiosité, de la sexualité, de tout ce qui était impur, de l'esprit de mort qui aurait fait que certainement je ne serais plus là aujourd'hui. Dieu a défait mes chaînes. Il m'a vraiment sauvé. Je suis aujourd'hui dans cette espérance-là. Depuis sa conversion, Maggie consacre sa vie, sa voix, ses talents pour la cause de la bonne nouvelle. Maggie Blanchard croit fermement que la vraie musique gospel contemporaine n'est pas seulement qu'un style, mais un instrument puissant pour répandre le message d'amour de Dieu et consoler les cœurs. Son premier album solo, en tant qu'artiste chrétienne, est sorti en 1999 et s'intitule « Libéré ». Faisons ainsi écho à son poignant témoignage. Pour terminer, je voudrais vous laisser avec quelques sujets de prière. Prions pour les pays qui sont encore réfractaires à l'Évangile et où les chrétiens sont empêchés de témoigner leur foi. Rendons grâce au Seigneur de ce que nous sommes dans un pays où la liberté de culte est garantie. Mais restons vigilants, car l'ennemi ne sommeille point. Demandons au Seigneur d'envoyer les ouvriers dans sa moisson, comme cela est indiqué dans Luc 10, verset 2. La moisson est en effet grande, mais les ouvriers peu nombreux. Si vous sentez l'appel du Seigneur pour ce ministère d'évangélisation, vous pouvez venir nous rencontrer à la fin du culte, nous allons en parler, ou encore vous manifester auprès de votre pasteur. Il se peut que pour diverses raisons, vous ne soyez pas aujourd'hui disponible pour pouvoir être membre à part entière de l'association des Gédéons. Vous avez la possibilité de nous soutenir en tant qu'amis des Gédéons, partageant avec nous le fardeau des âmes perdues au moyen de la prière. De cette façon, vous serez régulièrement tenus informés de nos activités et de nos sujets de prière. Parce que nous croyons qu'effectivement, on aura besoin tous de prier ensemble pour que les barrières puissent être levées, pour que l'Évangile avance. Enfin, prions le Seigneur pour davantage de fonds pour le financement de l'impression des Écritures que nous distribuons. Sachez que chaque Nouveau Testament, comme celui-ci, coûte environ 1 euro. Et je peux vous assurer que chaque euro que nous recevons est utilisé pour pouvoir fabriquer, imprimer des Écritures. Merci encore donc pour votre accueil dans cette assemblée. Je vous remercie également pour votre attention. Que le Seigneur puisse vous bénir abondamment. Amen.
Voilà. On va faire passer à nouveau les deux paniers des offrandes qui ont été vidés pour cette offrande très spéciale. Donc rappelez-vous, chaque euro que nous pouvons donner, chaque pièce d'un euro, chaque billet de 20 euros, c'est 20 Bibles qui vont pouvoir être données et qui vont être un témoignage vivant, la parole de Dieu qui transforme. Et vraiment qu'on puisse être généreux ce matin vers ce ministère de Gédéon, vraiment que la parole soit diffusée. Et est-ce que je peux demander peut-être à Nicolas si de ta place tu peux prier pour conclure ce temps de ministère des Gédéon, si c'est possible pour toi. Merci. Prions. Alors j'invite à nouveau les musiciens à nous rejoindre avec la chorale et vraiment que par ce dernier chant nous puissions rendre gloire à notre Dieu, que son nom soit glorifié sur la terre, dans la vie de chacun de nous et dans notre Église.